Chapitre 24. La lettre écrite par Claude Lysias est un document tout à fait caractéristique dans lequel il présente ce qu'il a fait sous la lumière la plus favorable. Mais d'un autre côté, elle blanchit totalement Paul de tout mal condamnable ou digne de mort. La seule faute dont il est accusé est touchant des questions de leur foi. Ainsi, le premier dignitaire romain, devant qui il est traduit, est vite convaincu que les accusations portées contre lui concernent sa foi et qu'il n'est coupable en rien quant à sa conduite. Dieu a évidemment veillé à ce que cela soit très clairement établi. C'est ainsi que, malgré leur serment d'exécration, les 40 hommes sont empêchés de mener à bien leur complot. Paul était en sécurité sous la protection puissante de Rome, et le moment venu, il pourrait défendre sa cause dans une atmosphère plus calme et porter le nom de son maître devant les nations et les rois, et aussi devant les fils d'Israël, comme cela avait été prédit à Ananias. Mais il doit d'abord comparaître devant le gouverneur Félix. L'acte d'accusation de Paul laisse transparaître un amer ressentiment et des préjugés. Le fait que non seulement les anciens, mais Ananias lui-même, le souverain sacrificateur, ait jugé nécessaire de descendre pour porter plainte contre lui, montre l'importance de ce cas à leurs yeux. Et puis, ils font appel à un avocat qui, à en juger par son nom, était romain et non pas juif. Ils pensaient sans doute que Tertulle saurait mieux qu'eux comment s'adresser à des romains et serait plus à même d'obtenir une condamnation. En effet, Tertulle sait s'y prendre et commence par d'abondantes flatteries. Ce que l'histoire nous rapporte de l'administration de Félix dément absolument ses paroles. Ensuite, il dresse une quadruple accusation contre Paul. Les 4 charges sont vagues, surtout les 2 premières. Cet homme est une peste, et il excite des séditions. Il préfère les accusations vagues, sachant qu'elles sont souvent plus difficiles à réfuter que celles qui sont claires. La 3e et la 4e accusation sont un peu plus précises. La 4e, il a même tenté de profaner le temple, est fausse. Le chapitre précédent l'a montré. La 3e est la seule à présenter quelque apparence de vérité. Il s'était manifesté comme meneur parmi les chrétiens, connu par les juifs comme la secte des Nazaréens. Ils étaient effectivement des disciples du Nazaréen méprisé, mais ils ne constituaient pas à proprement parler une simple nouvelle secte parmi les juifs. Le livre des Actes a été écrit pour prouver qu'ils n'étaient pas cela, mais quelque chose de tout à fait nouveau. Le monde ne comprendra jamais une œuvre authentique de Dieu. Tertulle s'arrange à présenter la démarche de Lysias sous une lumière défavorable, puisqu'il avait déjoué la violence des Juifs. Et les Juifs soutiennent les affirmations de leur avocat. Ils fournissent la substance et se servent comme instrument des gentils, comme ils l'ont fait dans le cas du Seigneur. La réponse de Paul est en contraste absolu avec la harangue de Tertulle. Il reconnaît que Félix avait plusieurs années d'expérience en tant que juge parmi les Juifs, mais s'abstient de toute flatterie. Il évite les déclarations vagues, nie explicitement avoir été impliqué dans des disputes ou des émeutes, et fait remarquer qu'il ne s'est pas passé plus de 12 jours depuis son arrivée à Jérusalem. Il montre que si ses adversaires ont prononcé de nombreuses accusations, ils n'ont fourni aucune preuve et qu'ils seraient bien incapables de le faire. Puis, par une confession simple et claire de ce qui l'avait caractérisé et de ce qui, en fait, était à la base de leur hostilité, il fait ressortir le fondement de l'évangile qu'il prêchait. Pour eux, c'est une hérésie, mais c'est le fondement même de la vérité. Paul proclame ainsi avec habileté sa foi dans tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament et montre que toutes les espérances chrétiennes sont basées sur la résurrection qui a été prouvée en Christ. Et il est tout aussi certain qu'il y aura une résurrection pour les injustes. C'était évidemment une flèche décochée à la conscience de Félix et de tous les auditeurs présents. Personne ne pourra rester au fond du sépulcre pour échapper à la main puissante de Dieu en jugement. Après avoir exprimé sa foi dans les Écritures et dans la résurrection, Paul affirme que sa conduite a été conforme à ce qu'il croit. Sa conscience est sans reproche. il n'est monté à Jérusalem que pour remplir une mission de grâce. Et dans le temple, il s'était comporté d'une manière parfaitement ordonnée et correcte. C'étaient les Juifs d'Asie qui étaient à l'origine de l'émeute, et non pas lui. Et maintenant qu'ils avaient l'occasion de présenter leurs accusations contre lui, ils n'étaient pas venus pour le faire. Pourtant, il y avait là des Juifs qu'il avait vus comparaître devant le Sanhédrin, et Paul savait que ceux-ci n'avaient rien à lui reprocher, sinon sa foi en la résurrection. Il était bien conscient que c'était le parti des Sadducéens qui s'acharnait tellement contre lui et l'accusait. Aussi prend-il soin d'établir très clairement devant Félix que le vrai enjeu était sa foi dans la résurrection des morts, résurrection attestée par celle de Christ. Il se peut aussi que Paul ait voulu reconnaître que le cri qu'il avait fait monter devant le Sanhédrin n'était pas dépourvu de tout blâme. Le verset 24 nous apprend que Félix avait une femme juive. Il était par conséquent bien informé et réalise tout de suite que Paul n'avait rien fait de mal. Il ajourne la cour, sous prétexte d'attendre le chiliarque Lysias. Ainsi, une nouvelle fois, les accusateurs sont frustrés, d'autant plus que, comme nos cours de justice l'exprimeraient, l'ajournement est sine die. En attendant, Paul se voit accorder une mesure de liberté extraordinaire dans laquelle nous pouvons encore discerner la main de Dieu. Le récit ne nous montre pas que Lysias soit venu. En revanche, nous voyons Félix et sa femme Drusille convoquer Paul pour une audience privée au cours de laquelle il rend témoignage de la foi en Christ. C'était une occasion exceptionnelle et Paul, connaissant le caractère faible et pervers du gouverneur, met l'accent sur la justice, la tempérance et le jugement à venir. Les versets 16 et 17 de Romains 1 nous montrent très clairement que la justice peut être considérée comme étant un résumé du message de l'Évangile. La tempérance, ou le contrôle de soi, est le résultat produit dans la vie de celui qui le reçoit. Et le jugement à venir est ce qui attend ceux qui le refusent. Ainsi, malgré l'extrême brièveté du rapport qui nous a été conservé du discours de Paul, les trois expressions employées couvrent l'effet saillant de l'Évangile. Le message est très puissant et fait trembler Félix. Celui-ci remet pourtant la décision à ce moment convenable qui, si souvent, ne se présente jamais. C'est bien ce qui arriva. 2 années se sont écoulées avant que Festus succède à Félix, et pendant cette période, ils se sont souvent rencontrés. Mais rien ne se passe, et Félix laisse Paul prisonnier pour gagner la faveur des Juifs. Le véritable obstacle dans le cœur de Félix était son amour de l'argent. Ce cas illustre, d'une manière frappante, que l'esprit peut agir avec puissance sur un homme par l'Évangile, depuis l'extérieur, mais qu'un travail dans le cœur et la conscience à l'intérieur peut être étouffé par l'activité d'une convoitise, telle l'amour de l'argent. Une vraie conversion a lieu lorsque l'œuvre de l'esprit, depuis l'extérieur, est accompagnée et reçue par l'œuvre de l'esprit à l'intérieur.